pose toujours la question, je me la suis reposée en allant à ce festival, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement la liberté de créer? Est-ce que c'est simplement la possibilité d'offrir des points de vue neufs à partir des moyens cinématographiques, sortir des sentiers battus, peu importe les moyens, peu importe le contexte, industriel ou pas, dans lequel les films sont faits? Il semblerait que oui, si on s'en tient à la ligne éditoriale directrice qui finalement est au cœur du festival BAFICI. Donc, le cinéma indépendant pris au sens large, la liberté de penser, la liberté de créer, d'affirmer des points de vue qui sortent des sentiers battus et qui ne coupent pas les fils avec l'avant-garde. Et dans ce festival-là aussi, on a un sens de l'histoire qui est assez fort. C'est frappant de voir quand on se balade à Buenos Aires que les grands classiques, entre autres du cinéma italien des années 50-60, toute la vague du néoréalisme italien qui va être remise de l'avant, d'ailleurs à la fin du mois, au Musée de la Civilisation avec une série de films qui se déroule à Rome, ben, toute cette vague-là, entre autres imposée par quelqu'un comme Roberto Rossellini, son film Rome Ville Ouverte, mais les films subséquents aussi comme Europe 51, etc., sont vendus dans les kiosques et les journaux. Certains films, d'ailleurs, de Rossellini en particulier, sont difficilement trouvables ailleurs dans le monde, en tout cas en Europe et aux États-Unis, ou alors à un prix très élevé. On peut les acheter à 12 pesos pratiquement dans la rue et les transferts sont très bons. Je pense à Europe 51 en particulier, que moi j'ai jamais trouvé en DVD auparavant et que là j'ai pu m'acheter dans la rue il y a quelques semaines. Voilà un tableau culturel, une mise en contexte du festival BAFICI consacré au cinéma indépendant. Et puis après la pause, ben, on va aller davantage du côté du contenu. Quels films ont été montrés là-bas? À tout de suite.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nincassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous autres avec.
70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Une programmation résolument actuelle, à l'image du Cercle. À ne pas manquer en mai, Yel, le 2, la rencontre Becha Kucha, le 4, Dan Mangan, le 5, la tournée Dare to Care avec We Are Wolves, Bernard Adamus, Rico Machine et Jimmy Hunt, le 7, Midnight Romeo, le 12, et Miracle Fortress, le 14, 228 Saint-Joseph-Est, le trait d'union cercle.ca.
pas autant que tu le dis.
La bien nommée Saison des touristes du groupe Holden, c'est une chanson bien titrée dans la mesure où j'ai fait pratiquement mon récit de touriste avant la pause, mais c'était pour une bonne cause. J'essayais de décrire le contexte culturel, c'était quand même du tourisme culturel, donc je vous ai fait part d'une série de découvertes à Buenos Aires pour essayer de mettre en contexte le Festival du cinéma de Buenos Aires sur lequel je vais m'attarder un peu plus, en tout cas en termes de contenu, après avoir essayé d'installer le décor dans lequel ce festival-là a cours, qui est certainement le festival le plus reconnu, le plus respecté et le plus important pour ce qui a trait à la mise en valeur du cinéma indépendant en Amérique du Sud et même en Amérique latine, pourrait-on dire, apparemment, même s'il y en a deux autres festivals en particulier très importants, l'un au Mexique, l'un à Mexico, l'autre à La Havane et également à Sao Paulo, au Brésil. Donc, le BAFICI, c'est quoi? Ben, c'est une mise en valeur du cinéma indépendant. C'est quoi le cinéma indépendant? Mais comme je le disais tout à l'heure, dans ce festival-là, c'est entendu au sens le plus large possible. Ça ne veut pas dire qu'on y voit des films des grandes vedettes. Parce que je disais aussi que le cinéma indépendant, ben, si on l'entend au sens le plus large possible, ben, ça peut être simplement la défense d'une vision, d'un point de vue, d'une qualité d'expression qui est innovante, qui est singulière et qui peut toucher un large public et qui peut aussi bien s'inscrire dans un cinéma plutôt industriel que dans un cinéma davantage... bon, ça existe de plus en plus, ce type de cinéma-là, c'est même une très grande tendance, j'allais dire une tendance lourde pour ce qui est du cinéma d'auteur, un cinéma davantage fabriqué avec les moyens du bord, donc une sorte de cinéma artisanal qui prend le pas sur une manière plus expérimentale de faire du cinéma de façon décalée, qui s'exprimait davantage par la vidéo autrefois, et qui maintenant, avec l'entremêlement des supports et l'importance accordée à la vidéo numérique dans le développement du cinéma contemporain, fait en sorte que, avec des moyens très légers, on fait aussi un cinéma qui, lorsqu'il est indépendant, est souvent, très souvent, finalement, un cinéma... tenter un cinéma qui est fait avec la qualité du travail de l'artisan, si on veut. C'est peut-être une manière de marginaliser le cinéma, mais j'ai pu voir et constater au BAFICI que c'est quand même plus compliqué que ça. Donc on voit pas des têtes d'affiche au festival BAFICI au sens où on en voit à Cannes, dans la sélection officielle par exemple en ce moment. Assez peu de chance de voir le dernier film d'Almodovar au BAFICI. Par contre, On peut imaginer qu'il y aurait à un moment donné, ou bien peut-être déjà eu d'ailleurs, il faudrait vérifier une rétrospective des films de Pedro Almodovar, qui est quand même un des cinéastes aujourd'hui qui a une signature et une valeur sûre dans le milieu du cinéma d'auteur. C'est presque parfois des films commerciaux, en tout cas certains de ces films ont été de réels succès commerciaux, même que les films de Woody Allen par exemple, et parfois davantage. Même chose pour Lars von Trier. Donc on verra pas Mélancolia, le dernier film de Lars von Trier qui est présenté en compétition officielle à Cannes. On le verra pas au Bafici. Évidemment pour des raisons de calendrier, là si on s'en tient juste à l'exemple de Mélancolia, parce que le Bafici peut pas présenter, tout comme Tribeca à New York, des films qui vont demander l'attention de la plupart des critiques et journalistes pour l'année qui vient. Ces films-là, on les préserve autant que possible pour Cannes, si le programmateur et haut dignitaire Thierry Frémaux prend la peine de les sélectionner, puisque c'est lui qui a le dernier mot, il assume tous ses choix, comme il le dit, ce qui suppose aussi qu'il a parfois un droit de vie et de mort sur des cinéastes inconnus qui pourraient sortir de l'ombre grâce à sa sélection, parce que chaque année, il essaie de faire un équilibre entre des cinéastes qui sortent de l'ombre, qu'il veut sortir de l'ombre, et des cinéastes confirmés. Donc, par contre, ces cinéastes confirmés, bah, très peu de chances que vous les voyez au Bafici, ne serait-ce aussi que parce que ces films attirent trop l'attention médiatique au cours de l'année et ont besoin d'une grande audience, ou alors de plus en plus, il y a une tendance lourde, les films commerciaux, comme disons d'auteurs relativement commerciaux qui risquent d'avoir un succès commercial, comme ceux de Lars von Trier ou de Almodovar, sortiront directement parfois en salle. Almodovar a hésité à sortir son film à Cannes. Il a eu des pressions de Thierry Frémaux pour le sortir à Cannes, sans quoi il aurait préféré finalement le présenter au public d'Espagne en première, dans une sortie commerciale avec peut-être une soirée de gala en préambule, beaucoup moins accaparante d'un point de vue médiatique, sans, disons, les flashs issus d'un peu partout à travers le monde qui retentissent jusqu'en dans la fenêtre de votre ordinateur via Facebook dans la demi-heure qui suit la montée sur le tapis rouge. Bon, tout ça pour dire qu'au Bafici, la fenêtre qui est offerte au cinéma indépendant n'inclut pas nécessairement les auteurs qui ont un point de vue singulier, mais qui ont vraiment un large public, ou qui s'assure une grande attention médiatique. Par contre, c'est possible de se concentrer sur le parcours de certains cinéastes qui, à ce moment-là, vont se déplacer, présenter leurs films, et qui n'auront peut-être pas, justement, un nouveau film avec eux, mais ce sera l'occasion de revenir sur leur travail passé. C'est le cas en particulier de Jacques Doyon, dans le dernier festival, donc Bafici, qui est venu parler de son travail de cinéaste au long cours. Doyon, c'est le réalisateur d'une poignée de films qui ont été assez marquants. Il a eu un passage à vide, en fait, au début des années 2000. Pendant environ 6 ans, je crois, il n'a pas réussi à financer ses projets, ce qui était assez incroyable pour un cinéaste qui, quand même, pendant plusieurs années, faisait un film. Donc, enchaînait les films, en fait, à peu près au même rythme haletant que Woody Allen. Donc, un film par an, parfois deux. Et donc, cette année, il était au Bafici pour venir parler de son travail, et c'était assez significatif de l'intérêt que porte le Festival de Buenos Aires sur le cinéma français, le cinéma européen, mais en particulier le cinéma français, parce qu'il y a une francophilie qui est presque, je dirais, de tradition à Buenos Aires, qui a à voir avec un intérêt pour la culture française, en particulier la littérature française, mais bien au-delà, une certaine façon de mettre de l'avant le cinéma d'auteur, d'aborder le cinéma comme forme d'art qui se rapproche de la critique cinématographique française et d'une approche au long cours. On sait que des textes critiques très élaborés, même théoriques sur le cinéma, ont été réalisés en France dès les années 10, dans le 20e siècle. Il y a un appareillage critique théorique qui est presque aussi important en France, en fait, qu'en Allemagne. Et en Allemagne, je crois que le premier âge d'or de la critique cinématographique date plutôt des années 20, mais quand même, dans les années 10, il y avait des réflexions théoriques assez intenses en Allemagne, en France, même, je dirais, en Europe centrale, donc en Hongrie aussi. Et on sent que dans le contexte argentin, cette manière d'appréhender le cinéma comme forme d'art qu'on doit prendre au sérieux autant que l'art pictural, par exemple, ou que la littérature, est tout à fait d'actualité. Et donc, il y avait un dialogue, entre autres, avec Jacques Doyon et un jeune cinéaste dont j'espère on reparlera ici au 7e ciel parce qu'il est très intéressant. C'est un cinéaste qui s'appelle Matias Pinheiro. Pinheiro est un jeune créateur... un jeune créateur argentin, et les questions presque candides qu'il posait à Jacques Doyon lors d'une classe de maître, pourrait-on dire, donnaient bien la couleur en ce qui a trait à l'influence et à l'attrait que suscitent chez les jeunes cinéastes argentins, je crois, toutes les réflexions théoriques et philosophiques autour de l'art cinématographique qui se sont développées en France depuis longtemps. Mais en particulier, il y a eu une influence très vive dans les théories cinématographiques aux États-Unis et en Europe depuis maintenant presque 30 ans, à partir des livres du philosophe Gilles Deleuze sur le cinéma, soit l'image-temps et l'image-mouvement. Deleuze, évidemment, a excité beaucoup les intellectuels qui s'intéressent au cinéma en accordant autant d'importance à la réflexion critique et philosophique en ayant pour objet le cinéma, puisqu'il écrit quand même pratiquement, si je ne me trompe pas, 600 pages juste sur le cinéma, en faisant deux volumes, puis aux éditions de Minuit dans les années 80. Et donc, Matias Pinheiro, là, dans la classe de maître avec Doyon, a pris du temps pour se référer à Gilles Deleuze et pour affirmer, en fait, combien Doyon, lors de quelques pages clés de l'image-temps, a influencé une certaine mise en concept du cinéma dans la réflexion de Deleuze. Et Pinheiro donc commence à parler de type d'image. Bon, pour aller vite là, c'est pas important d'entrer dans les détails, c'est juste pour mettre en contexte et donner une idée du rapport assez intense qu'entretiennent, je pense, les jeunes créateurs du cinéma argentin avec la pensée du cinéma. Gilles Deleuze a créé toute une typologie des images de cinéma, donc plusieurs types d'images cinématographiques qui ont tous une signification, un rôle particulier, et déploient toute une manière de représenter le monde très singulière qui n'appartient qu'au cinéma et qui peut nourrir la philosophie et contribuer à renouveler même la réflexion en philosophie en ce qui a trait surtout à la manière de s'inscrire, de s'ancrer dans le monde contemporain, puisque bon, si on s'en tient à quelqu'un comme Deleuze, c'est clair qu'il y a presque une nécessité chez lui de s'intéresser aux nouvelles formes artistiques, et en particulier le cinéma, pour essayer de comprendre le monde dans lequel il vit avec les moyens qui sont les siens, celui du philosophe. Donc, Pinheiro, en s'adressant à Deleuze, avait tendance à utiliser des terminologies tout droit sorties de manière très candide de l'image-temps de Gilles Deleuze, ce qui avait pour effet de créer chez Doyon, je dirais même pas une grande résistance, mais un rejet catégorique qui le menait à répondre aux questions de Pinheiro, qui étaient très intellectuelles, très conceptuelles, à travers des exemples très concrets de son travail de mise en scène. Donc il ramenait vraiment les choses à plat, et il faisait une division nette entre le terrain de la mise en scène et le travail du cinéaste, et la pensée du cinéma, qui peut être le produit du film, mais un produit sur lequel un créateur a très peu de contrôle, puisque, en grande partie, finalement, les propositions de Deleuze à partir de ces films qui les inspirent, ne sont que l'action et ne sont que l'effet sur Deleuze, philosophe et cinéaste, des films. Donc l'effet plutôt que les films font sur lui. Donc c'est pas exactement des films dont il parle, mais de l'effet que les films ont sur lui, spectateur et philosophe, et comment ça peut nous... Donc il y avait quand même des échanges assez intenses qui donnent la couleur de ce que peut être aujourd'hui la création dans le cinéma indépendant latino, en particulier argentin. Le ton du festival, ça peut avoir l'air un peu lourdingue en parlant comme ça, mais au contraire, je tiens à dire que Pinheiro posait ses questions avec beaucoup de candeur, avec une sorte d'enthousiasme, celle d'un cinéaste qui a besoin de penser aux autres films qui ont été faits avant ceux qu'il veut faire ou ceux qu'il a lui-même fait pour mieux être habité par la création et être habité par le cinéma. Et on peut dire que cette approche, cette manière de faire est directement héritière des cinéastes qui ont réussi à réinventer le cinéma après la grande débandade expressive, entre autres expressionniste du cinéma, qui vient avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin de l'âge d'or du cinéma européen, qui, entre autres, était si flamboyante en Allemagne. Et on sait comment l'Argentine est tributaire de la culture européenne et ne le refoule pas, ne le cache pas. Et on peut dire que la pensée du cinéma peut être du côté de l'Amérique latine, et les créateurs qui se nourrissent des réflexions sur le cinéma, les cinéastes qui se nourrissent de l'analyse des réflexions sur le cinéma, trouvent à renaître de ses cendres, à se renouveler dans la mesure où ils veulent maintenir un fil qui ne fait pas l'impasse sur justement les moments les plus complexes ou les plus lourds de la création cinématographique dans l'histoire récente.
Bye.
On vient d'entendre la pièce titre de l'album Brown Rice de Don Cherry, réalisation mythique du milieu des années 70, légèrement influencé par les albums de Miles Davis réalisés un peu avant, dont Butcher's Brew. Guillaume Lafleur avec vous sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, fin de la deuxième demi-heure de l'émission. C'est pire que ça en fait, fin de... Non, c'est fin de la deuxième demi-heure, non. On est déjà rendu à la fin de la première heure. C'est la même chose, mais en fait, c'est simplement pour dire que le temps file, et je parle du BEF ici, Festival de cinéma indépendant de Buenos Aires, tout au long de cette émission, festival qui avait lieu il y a quelques semaines, j'y étais présent. J'ai passé la deuxième partie de l'émission à insister sur... l'influence des théories du cinéma, de la réflexion sur le cinéma dans la création indépendante actuelle en Argentine. En tout cas, j'en ai eu l'impression. Il y a une autre dimension qui va m'intéresser dans la deuxième partie de l'émission, qui est davantage la dimension politique. On pourrait dire les états du monde, du cinéma. Une certaine manière de faire le cinéma aujourd'hui permet parfois de prendre le pouls de l'état du monde. C'est le cas en particulier avec le cinéma argentin, un cinéma qui parfois est moins orienté du côté de la réflexion esthétique, même si ça semble être une tendance lourde, entre autres illustrée par le cinéaste Mathias Pinheiro, qui animait une discussion avec Jacques Doyon, à laquelle j'avais assisté à Buenos Aires il y a quelques semaines. Donc, une approche un peu plus conceptuelle, un peu plus abstraite du cinéma. Bon, il y a une autre tendance lourde, qui est celle de brosser un portrait social et politique du monde contemporain, du point de vue de l'Argentine. Donc, c'est pas une manière de faire qui est neuve. Cependant, il est étonnant de constater à quel point les cinéastes ont une approche parfois sociopolitique. C'est le cas d'un jeune cinéaste comme Santiago Mitre, sur lequel je vais m'attarder un peu après la pause. Donc, ces cinéastes ont parfois une approche beaucoup plus politique et qui a une résonance directe dans la salle, en fait, dans la communauté cinéphile et au-delà. On a l'impression qu'il y a une tendance qu'on voit assez peu aujourd'hui au Québec, mais qui est évidente à Buenos Aires, où les cinéastes sentent le besoin, à travers le film, de faire aussi un travail de citoyen. Et la position de cinéaste est même peut-être indissociable de celle du citoyen. Évidemment, c'est peut-être une certaine manière de faire du cinéma engagé. Mais au-delà de ça, d'une terminologie qui peut paraître un peu péjorative aujourd'hui, surtout dans l'hémisphère nord, c'est pas nécessairement du cinéma engagé, mais plutôt un cinéma qui est en phase avec son époque et qui n'essaie pas de se cacher dans des bulles esthétiques, dans des mondes parallèles que